Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme vous avez entendu, chers fidèles, nous avons aujourd'hui la parabole du semeur, cette belle parabole, qui ouvre une série de paraboles où notre Seigneur nous enseigne au sujet du royaume des cieux, c'est-à-dire le mystère de la grâce en ce monde. Cette première parabole contient en figure le mystère de l'incarnation, la prédication de l'Évangile et toute l'œuvre de notre salut. Elle nous fait voir, d'un côté, la bonté de Dieu s'abaissant jusqu'à nous et semant la parole de sa grâce avec une libéralité sans borne, offrant le salut à tous. Et de l'autre côté, on voit la dureté et l'ingratitude des hommes, dont la plupart sont infidèles et rendent inutiles les dons de Dieu. Ce qui montre encore l'importance de cette parabole, c'est que notre Seigneur prend le soin de l'expliquer à ses disciples lui-même. Chose qu'il n'a fait que pour cette parabole et pour la parabole de l'ivraie. Donc voyons la signification de cette parabole. Mais tout d'abord, voyons pourquoi notre Seigneur enseignait avec des paraboles. Car en effet, les autres évangélistes qui ont raconté cette parabole disent que les apôtres n'ont pas demandé uniquement quelle était la signification de cette parabole, mais ils ont demandé à Jésus pourquoi il enseignait en utilisant des paraboles. Alors Jésus leur dit, « Je ne leur parle qu'en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils ne comprennent point. » Cette réponse énigmatique de notre Seigneur déroute. Notre Seigneur utilise les paraboles à la fois pour faciliter la compréhension de son enseignement et pour cacher ce même enseignement aux indignes. Alors, cette contradiction apparente s'explique par la différence des dispositions dans l'âme de chacun, ce qui sera d'ailleurs la leçon de cette parabole. Les auditeurs de bonne volonté pouvaient monter jusqu'aux vérités les plus sublimes par le moyen des paraboles. D'ailleurs, les Juifs qui entendaient Jésus connaissaient ce procédé, car les Orientaux utilisaient souvent des paraboles, c'est-à-dire des espèces de comparaisons prolongées entre des choses connues et des choses nouvelles qu'on voulait faire connaître. Les paraboles de notre Seigneur contenaient des images simples et familières au peuple de son temps, donc des champs, des fleurs, des récoltes. Cette manière de faire excitait l'attention, piquait la curiosité et invitait à aller plus loin. Et notre Seigneur n'abandonnera jamais d'ailleurs cette façon d'enseigner. Donc, toute sa vie publique, il utilisera les paraboles, à la dernière scène en parlant avec ses apôtres, jusqu'au chemin du calvaire, et même en parlant à Saint Paul quand il le terrasse sur la route de Damas. Mais cette méthode qui permettait aux hommes de bonne volonté de pénétrer les mystères de la foi permettait aussi de cacher ces mêmes mystères à ceux qui méprisaient la parole de Jésus. En laissant la vérité dans une certaine obscurité, sous le voile des figures, Jésus la cachait aux indignes. Les orgueilleux, les endurcis, les railleurs, restaient comme devant une porte fermée, ne pouvant avancer plus loin. Non pas parce qu'on refuserait de leur ouvrir, mais parce qu'ils dédaignaient eux-mêmes de frapper sur la porte. Toutefois, cette punition même de leur manque de foi était en même temps un effet de la miséricorde infinie de Dieu. Parce que, sachant que de toute façon, le cœur des scribes et des pharisiens était fermé et qu'ils ne croiraient pas, même s'ils leur parlaient ouvertement, disaient des choses clairement, notre Seigneur ne leur donne pas des éclaircissements qui ne serviraient qu'à augmenter leur culpabilité. Alors maintenant, pour le sens de la parabole, qui est ce semeur qui sort pour semer son champ? C'est le Verbe de Dieu fait chair, celui qui a dit dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis sorti du Père et je suis venu en ce monde. » Et la semence est la parole de Dieu, c'est-à-dire les vérités évangéliques que Jésus est venu nous révéler. Mais cette semence est aussi Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu. Il est semeur et semence. Il se sème lui-même dans les âmes par sa grâce, par ses inspirations, ses sacrements, surtout l'Eucharistie. Il habite en nous et en croissant, il nous transforme en lui et nous rend participants de sa nature divine. Jésus continue au cours des âges de semer la grâce dans le monde à travers les prédicateurs de son Église. Saint Augustin et d'autres pères de l'Église ont appelé la prédication un magnum sacramentum, un grand sacrement. Non pas qu'elle soit un sacrement au sens strict, mais en tant qu'elle est une manifestation de Dieu. Et le cardinal Pi explique cette idée de Saint Augustin. Il dit que pour rester présent sur la terre, Jésus nous a laissé trois sortes de sacrements. D'abord l'Eucharistie, le sacrement par excellence, par lequel il habite parmi nous dans la vérité de sa chair. Et puis le baptême, la confession, les autres sacrements proprement dit, par lesquels il habite parmi nous dans la vérité de sa grâce. Et puis la prédication, par laquelle il habite parmi nous dans la vérité de sa parole. Le grand commentateur des Écritures, Cornelius à Lapide, dit que c'est à bon droit que la prédication de la vérité est comparée à la semence. Car de même que la semence qui entre dans la terre a besoin d'être arrosée par la pluie, éclairée par la lumière du soleil et être agitée par le vent pour fortifier la tige, la vérité plantée dans notre cœur a besoin d'être fécondée par l'eau de la grâce, éclairée par la foi et fortifiée par les épreuves. Alors maintenant, voyons les différents terrains où tombe cette semence. D'abord, il y en a qui tombent près du chemin. Là, ce sont des âmes endurcies, imbues des maximes de la pensée unique et laïciste, des cœurs indifférents, semblables à une grande route où le terrain est battu sous les pieds des gens qui passent. Ces âmes sont le terrain des démons, qui, tout comme les oiseaux voraces qui dévorent le grain avant même qu'ils puissent entrer dans la terre, empêchent la vérité d'entrer dans l'esprit et la grâce d'entrer dans le cœur. Ces âmes refusent de croire. Et c'est évidemment cette première catégorie qui est la pire. C'est la catégorie des hommes comme le Pharaon dans l'Ancien Testament, qui refusait de croire malgré les prodiges qu'il voyait devant lui, ou Pilate qui demande avec dédain « Qu'est-ce que la vérité ?» ou d'un rationaliste comme Émile Zola au XIXe siècle, qui a relevé le défi d'aller à Lourdes pour voir sur place s'il y avait quelque chose. Il est allé, Il était témoin lui-même d'un miracle de Notre-Dame, et malgré cela, il a refusé de croire. Ensuite, c'est le terrain pierreux. Ce sont les âmes légères, superficielles, qui reçoivent la vérité avec joie, peut-être même avec empressement, mais qui manquent de profondeur. Dès que la religion leur demande un effort ou pose une difficulté, elles l'abandonnent. La moindre tentation les ébranle, que ce soit les croix de cette vie, une légère persécution pour la justice, l'idée que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Cette catégorie est un peu moins coupable que la première, mais elle n'en est pas moins exclue du royaume des cieux. Et après, c'est la semence qui est suffoquée par les épines. Ce sont des âmes qui persévèrent dans la foi, mais qui ne portent pas de fruits. Ce sont les âmes partagées, embarrassées par les plaisirs et les soucis des biens de la terre, et qui négligent leur vie spirituelle. La grâce est comme étouffée par les pensées trop terrestres ou les attaches mondaines, et cette grâce meurt dans l'âme. Notre Seigneur nous prévient plusieurs fois dans l'Évangile combien il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et il nous prévient de la nécessité de rompre les liens qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Parfois même les liens familiaux, en disant, si vous aimez votre père et votre mère plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Il y avait un homme qui vivait avec une femme qui n'était pas son épouse. Et il est tombé gravement malade. Il a fait venir le prêtre. Puis il s'est confessé. Et le prêtre lui a dit, ah, maintenant, il ne faut plus voir cette femme. Il ne faut pas la faire revenir. Mais il n'a pas écouté. Il a voulu juste la voir pour dire au revoir. Et c'était trop pour lui. Il a tout renoncé à sa confession. Il n'a pas voulu quitter cette femme. Et il est mort comme ça. Alors, nous, sans être peut-être dans une situation aussi dramatique, ou sans être très riche, avec beaucoup de biens de la terre, combien parmi nous ont laissé quand même pousser les épines dans notre âme par une sollicitude exagérée, fiévreuse des choses d'ici-bas? Par exemple, un désir immodéré d'être au courant de l'actualité. Je pense un peu aux élections américaines récemment. Après, vous avez la bonne terre. C'est la quatrième catégorie. Ce sont des âmes humbles, bien disposées à écouter la parole de Dieu, libérées des attaches mondaines et qui cherchent à plaire à Dieu. Ces âmes ont une foi vivante par la charité. Ils sont en état de grâce et portent des fruits pour la vie éternelle. Alors, pour conclure, le commentateur Cornelius a lapidé, il a résumé un peu cette parabole, disant que la première catégorie, donc la semence qui tombe près du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne croient pas. C'est ceux qui n'ont pas la foi. La semence qui tombe sur le terrain, la terre un peu pierreuse, c'est ceux qui croient, mais qui ne persévèrent pas dans la foi. C'est ceux qui ont perdu la foi. Et puis dans les épines, c'est ceux qui persévèrent dans la foi, mais qui ne portent pas de fruits. Ceux dont la foi est morte. Et puis, dans la bonne terre, ce sont les âmes qui ont la foi et la charité, et qui portent des fruits. Ils ont une foi vivifiée par la charité et qui vivent en état de grâce. Chers fidèles, si vous êtes ici dans cette église, vous ne faites sans doute pas partie des deux premières catégories, qui n'ont pas la foi. Mais qu'en est-il de la troisième catégorie? Est-ce qu'on n'a pas laissé croître quelques épines dans son âme? Est-ce que le monde a envahi votre âme comme les ronces qui envahissent un champ négligé? Le carême arrive et c'est le temps de réfléchir à des résolutions concrètes pour enlever ces ronces de notre âme. Et par exemple, ça peut être pour maîtriser l'usage de l'Internet et des portables. On l'entend souvent, et c'est peut-être même un peu agaçant de toujours l'entendre, les prêtres qui le disent, mais aujourd'hui, l'Internet est certainement la source principale de ces ronces dans notre âme. Au temps de Saint Jean Chrysostome, les dangers étaient autres. Il parlait tout le temps dans ses sermons des jongleurs, du cirque, etc. On n'est plus dans ce temps-là. Maintenant, c'est l'Internet. Donc, il faut prendre des résolutions concrètes pour limiter l'usage, pour le maîtriser, de ne pas garder son portable inutilement sur soi, surtout à la maison, de le garder dans un lieu commun, de s'en servir comme un fixe, comme d'un fixe, de fixer des créneaux ou des temps limites pour faire des consultations, etc. Alors que notre Seigneur nous fasse vraiment comprendre cette parabole et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.